Bien, comme annoncé la fois passée, nous commencerons toujours par une petite prière. Donc je prends les tout premiers versets. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit : Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Voilà, Père, nous nous présentons devant toi ce soir pour que tu éclaires notre intelligence et notre cœur. Que cette lumière dans laquelle tu fais toutes tes actions soit la lumière dans laquelle nous recevons tes paroles, dans laquelle nous recevons toutes tes actions créatrices aujourd'hui. Donne-nous de partager ton sentiment que cela est bon. Fais-nous voir qu'il nous est bon d'être créés par toi. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu feras pendant ce cours. Amen. 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 Donc, au commencement. Alors, bien que la création soit au commencement, je vous rappelle que mon cours n'a pas commencé par la création. Il a commencé par la contemplation du Christ en croix, du don que le Père nous a fait dans le Christ pour nous rendre justement la création. Et de même, ce récit de la création, il a été mis tardivement au début des écrits bibliques. L'expérience première du peuple n'a pas été de parler de la création, mais d'avoir vécu l'exode, d'avoir été arraché à un pays où il était en esclavage, d'avoir été rassemblé en peuple, de s'être reconnu, choisi par Dieu pour cela. Et ce n'est que plus tardivement, au contact des autres cultures, et en particulier de la culture grecque, enfin ultimement de la culture grecque, que dans la Bible se sont développés ce qu'on a appelé les écrits de sagesse. Donc les écrits de sagesse se distinguent de la Torah, donc la loi ou les cinq premiers livres du Pentateuque, et des prophètes, parce que précisément ils visent l'universalité. La loi s'adresse au peuple, elle est donnée par Dieu au peuple. Les prophètes s'adressent au peuple pour le remettre dans les voies de la loi. Mais la sagesse témoigne d'un contact avec ceux qui ne sont pas le peuple. Et donc, nous ne savons pas exactement quand, entre le 9e et le 6e siècle, ces récits sont nés, partant de récits de la création existants dans d'autres cultures, autour de la culture hébraïque, mais en voulant dire que ce que le peuple a vécu, au fond, Dieu le veut pour tous. Et c'est ça ce qu'il exprime dans le récit de la création. Donc il ne prétend pas nous dire, comme un journaliste qui aurait été là, comment Dieu a fait le ciel et la terre, mais il universalise son expérience. Il se rend compte que lui qui a été choisi comme peuple dans l'humanité pour témoigner du Dieu vivant, eh bien au fond, toute l'humanité, parmi les créatures, elle est choisie aussi par Dieu pour un rôle spécial. Donc ces écrits sont des écrits de sagesse qui sont seconds par rapport à l'expérience spirituelle et, disons, politico-sociale du peuple. Et le peuple essaye de partager ainsi que, avec sa rencontre de Dieu, il a trouvé un sens à son existence, et que ce sens est proposé au fond à tout homme dès la création. Alors, c'est vrai que quand un peuple a fait l'expérience du sens, ou quand une personne a fait l'expérience du sens dans sa vie, il peut relire son histoire. Comme je l'ai dit la fois passée, il y a des moments d'une existence qui surplombent toute l'existence, comme le Cantique des Cantiques surplombe tout l'Ancien Testament. Et ce sont des moments où on se rend compte, au fond, ce qui précédait menait à ce moment-là. Et la suite de ma vie dépendra de ce moment-là aussi. Je dis, ça peut être le mariage, la vocation sacerdotale ou la consécration religieuse, ou d'autres engagements décisifs, mais qui font que quelqu'un a trouvé le sens de sa vie. Et le peuple, donc, ayant trouvé le sens de l'existence du monde, eh bien, le partage au monde entier. Mais, comme je viens de le dire, il y a une expérience qui est première par rapport à cette annonce, cette proposition à tous. Et ça nous rappelle que, pour voir le sens de l'histoire, la présence de Dieu dans l'histoire, il y a des étapes. Et ici, la création nous sera présentée comme une étape vers le sens de l'existence de l'humanité. Alors vous avez tous vu, vous savez, on a beaucoup insisté là-dessus, qu'il y a deux récits de la création. Donc, il y en a un qui commence au verset 4b du chapitre 2. Au temps où le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Le Seigneur Dieu planta un jardin, le Seigneur Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis, à partir du verset 18, donc cette découverte, « Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Puis le Seigneur présente tous les animaux à l'homme, et l'homme se rend compte que de connaître le monde entier ne le satisfait pas. Il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie, bien qu'il ait donné un nom à chaque chose. Il a fait tout ce que peut faire la science, donner des noms aux choses et comprendre les processus. Et ce n'est pas satisfaisant. Il ne trouva pas l'aide qui lui fut assortie. Et le Seigneur fait tomber une torpeur sur lui. Cette torpeur reviendra dans l'histoire d'Abraham. Elle prélude aussi à la nuit pascale. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place, puis de la côte qu'il avait tirée de l'homme, le Seigneur Dieu façonna une femme et l'amena à l'homme. Et l'homme est émerveillé, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il reconnaît un être humain qui lui est semblable, qu'il peut aimer. Et il est dit donc que c'est décisif, puisque l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Donc ce récit est le plus ancien. Il témoigne qu'en réfléchissant sur son existence dans le monde, ce qui a d'abord frappé les hommes, et en tout cas l'auteur sacré qui a recueilli cette tradition, c'est qu'au fond, les choses sont faites pour l'amour humain. La création est faite pour cette relation unique entre un homme et une femme. Mais par la suite, bien entendu, les hommes ont développé leur observation des réalités, et ce récit est apparu un peu simple, parce qu'il ne tient pas compte que dans les créatures, il y a quand même une gradation. Une mouche qui vole est mieux qu'une pierre. Et un animal qui peut se diriger soi-même, un quadrupède, un chien, un chat, semble bien supérieur à une mouche. Et l'être humain est quand même aussi supérieur aux animaux. Et au fond, l'homme s'est mis à mettre de l'ordre dans ce qu'il observait. Ce n'est pas encore le darwinisme, hein. Mais quand même, cette idée qu'il y a une gradation. Et un deuxième récit a été composé qui tient compte de cette réflexion, disons, scientifique sur le monde, quoi. Et c'est le récit de la création en 7 jours. Alors là, il y a des étapes, il y a une gradation, mais cela reste un récit poétique et destiné à révéler ce qu'il en est du plan de Dieu. Voilà, et ce récit-là a été mis avant le premier, et c'est par celui-là que nous avons commencé tout au début. Donc, les préparatifs, ce qui prépare la vision de l'homme et de la femme comme le désir de Dieu, eh bien, les préparatifs ont été mis en avant, pour ça qu'on a mis le récit en 7 jours avant l'autre. Mais ce qui est remarquable, donc, c'est la qualité de ces préparatifs. Vous avez remarqué que « Dieu vit que cela était bon » est un refrain. Il revient 7 fois, mais il ne revient pas chaque jour. Donc, lorsque Dieu a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Puis le deuxième jour, lorsqu'il a créé le firmament, donc le firmament, pour nous, c'est l'espace infini du ciel, mais comme le nom l'indique, firmamentum, pour la mentalité des hommes de l'époque où le récit a été écrit, c'est une coupole solide, firmamentum, c'est costaud, hein? C'est une grande coupole, et il y a des petits trous pour que les eaux d'en haut puissent passer vers le bas. Hein? Et donc, et c'est pour ça qu'il y a des eaux au-dessus et en dessous de la coupole, mais du firmament. Mais lorsque Dieu a créé le firmament qui sépare les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous, eh bien, il n'est pas dit qu'il a constaté que ce soit bon. On peut interpréter cela un peu spirituellement. Le fait que le ciel et la terre soient réellement distincts, il n'y a pas de communauté, si on peut dire, entre la réalité divine et la réalité terrestre, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? Eh bien, c'est comme si la question était ouverte. Cela va dépendre de la relation entre eux. Ce n'est pas immédiatement bon. Il y a une ouverture à ce que ce soit bon, mais qui va dépendre d'événements ultérieurs. Mais après, Dieu se rattrape donc en disant un même jour, 2 fois, Dieu vit que cela était bon. Alors, je voudrais ici faire un petit schéma sur l'apparition du temps. Donc, au début, il y a la lumière qui est interprétée diversement. Donc, pour saint Augustin, la première création étant la création des anges, je le dis puisque nous fêtons les anges gardiens aujourd'hui, la création de la lumière, pour Augustin, c'était évident que c'était la création des anges. Bon, mais on n'est pas obligé d'adhérer à cela, ni surtout de restreindre à cela. Mais la lumière, si vous voulez, c'est l'énergie. Et bon, nous savons depuis Einstein que l'énergie peut se transformer en matière et que de l'énergie peut devenir des particules et des particules de l'énergie. Et ça va dans les deux sens. Et quand ça se passe, au fond, c'est comme s'il ne se passait rien. C'est quand la vie apparaît, donc la vie végétale est donnée comme la première, que l'irréversible apparaît. Si vous voulez, un univers où la matière devient de l'énergie, l'énergie devient de la matière, c'est un univers qui n'a pas de sens. Il ne va pas vers quelque chose. Tandis qu'avec la vie apparaît l'irréversible. Une cellule devient 2 cellules et ça ne va pas aller dans l'autre sens. Et les 2 cellules deviennent 4 cellules, etc. Donc, l'apparition du temps avec la vie, avec cette chose mystérieuse, mais qui n'est pas annoncée ici, que sera la mort. Et puis, vient la vie animale. Alors, bien sûr, le vivant, ça, c'est l'étape radicale, hein, l'apparition du vivant. Mais avec la vie animale, le vivant est capable de sentir les choses et de se mouvoir. Donc la mobilité et la sensation sont les caractéristiques du vivant animal. Mais il y a eu une étape plus importante dans la vie animale, c'est l'apparition du système nerveux central. Bon, le cerveau, si vous voulez. Hein. Les bactéries n'ont pas de cerveau. Hein. Il y a des petits animaux, des microbes, etc., qui n'ont pas de système nerveux central. Qu'est-ce que c'est l'apparition du système nerveux central? C'est que l'animal qui est capable de sensation, il enregistre la sensation, mais le mouvement ne suit pas d'office. Si vous voulez, les tournesols n'ont pas le choix. Quand la lumière du soleil est là, ils se tournent vers la lumière. C'est chaque cellule qui se tourne, c'est pas le tournesol qui se tourne. Mais c'est une réaction immédiate. Tandis qu'avec le système nerveux central, il peut y avoir une distance entre la sensation et l'action. Et donc, apparaît un temps propre à l'animal. Il ne va pas de sensation en réaction et de sensation en réaction. Il peut voir une souris et peut choisir de courir derrière. Il peut ne pas le faire aussi. Donc, l'apparition du système nerveux central, c'est l'apparition du temps de l'être vivant. Et puis après, bien sûr, viendra la vie humaine avec une caractéristique supplémentaire, donc, qui est d'être un être spirituel, d'avoir conscience des réalités spirituelles, de pouvoir accéder au langage, à la communication, à la communion, etc. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la vie végétale, elle est faite avec de la matière. Mais ce n'est pas la matière qui détermine ce qu'est la vie végétale. Donc, il y a une loi nouvelle qui s'empare de la matière pour faire du neuf. Et de même, la vie animale, le fait d'avoir tout à coup la mobilité, de ne pas être lié à ses racines, etc., c'est aussi une loi nouvelle qui s'empare de ce qui est vie végétale, certainement. Nos cheveux et nos ongles continuent à pousser comme les feuilles des arbres. Mais il y a une nouvelle loi qui régit la vie animale et qui vient d'ailleurs. Les scientifiques parlent du principe d'émergence, mais on doit s'étonner de ce qui est une loi de type supérieur qui s'empare des réalités pour en faire quelque chose. C'est un lieu d'étonnement et on peut dire que cela était bon. Et la nouveauté de l'animal par rapport au végétal est nouvelle par rapport à la première nouveauté. Il y a de la créativité là-dedans. C'est une nouvelle loi nouvelle, si vous voulez. Avec l'apparition du système nerveux central, c'est aussi une loi nouvelle qui est donnée, puisque ça va dépendre maintenant d'un centre de décision. Et avec la vie humaine et le don de la réalité spirituelle, eh bien, l'homme, c'est curieux, donc l'homme est comme les animaux, mais ce qui le régit, ce n'est pas d'être mu par les mêmes lois que les animaux. Nous avons des lois qui sont de l'ordre de la communication, du langage, de l'ordre de l'esprit, de l'ordre de l'idéal aussi. Les animaux n'ont pas d'idéaux, hein. Ils ne travaillent pas pour entrer dans le monde, ils ne travaillent pas pour la guerre non plus. Mais voilà. Donc, il y a chaque fois un don, et c'est ça qui est apparu au rédacteur de la Genèse. Moi, je vous dis les choses à partir de nos connaissances scientifiques plus avancées, mais pour se rendre compte à quel point Dieu fait du neuf, et c'est étonnant, ce neuf est de qualité supérieure. Donc, on peut s'attendre une dernière fois, évidemment, à ce qu'il y ait quelque chose. Et ça, c'est pour la suite de l'histoire. Voilà, donc nous apprenons à connaître comment Dieu travaille. Alors, je trouve que c'est presque injuste de lire ces pages de la Genèse sans évoquer non seulement la créativité de Dieu, mais sa fantaisie. Dieu a créé les raies du zèbre, la crinière du lion, le cou de la girafe. Donc, il a créé des êtres qui nagent, des êtres qui volent, des êtres qui rampent, des êtres lourds, comme les baleines et les éléphants, des êtres légers. Il a créé la queue de l'écureuil aussi. Voilà. Alors, il y a une chose qu'il n'y a pas à l'origine, Eh bien, ce sont les enfants. Voilà un bien que Dieu s'est abstenu de faire lui-même pour en confier la mise au monde à l'homme et à la femme s'ils veulent s'unir. Alors, il y a un refrain dans ce premier chapitre à propos des vivants, c'est « selon leur espèce ». Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent, les eaux les firent grouiller selon leur espèce, et toute la gens ailée selon son espèce. Dans cette stabilité donc, qui a dominé toute la biologie avant Darwin, sur la stabilité des espèces, il y a comme quelque chose de la fidélité de Dieu qui s'exprime. Quand nous plantons un bananier, nous ne devons pas craindre qu'il en sorte des fraises ou des fruits vénéneux. Donc cette fidélité de la vie à elle-même, dans sa structure, dans ses formes, est quelque chose dont nous pouvons dire que c'est bon. Mais l'invention de la semence, donc je vous fais ici une petite parabole du récit de la création de Jean Eiffel, pour ceux qui connaissaient encore ces dessins-là. Mais un jour, les anges affolés arrivent près du Seigneur et lui disent « Mais écoute, il va y avoir plein de monde sur cette terre, comment est-ce qu'on va les nourrir, quoi ?» La question des apôtres, comment les nourrir ? Et Dieu arrive rayonnant avec une petite graine et il dit « Regardez, elle meurt comme graine isolée et une multitude de graines aussi puissantes qu'elle apparaissent. Il suffit de la mettre en terre. » Donc, l'invention de la semence, s'il n'y a pas un signe de Dieu là-dedans. Vous savez, nous sommes tellement habitués à ce que les enfants grandissent et que les plantes poussent, que nous ne nous émerveillons plus qu'au départ, une cellule devienne deux cellules. Parce qu'après, ce sera le même processus, deux cellules deviennent quatre cellules. Donc, bon, c'est au premier instant qu'il faut s'étonner. Une cellule devient deux cellules. Comment expliquez-vous ça? Donc, la création, c'est pas seulement il y a X millions d'années, ou je ne sais pas moi, en combien de centaines de millions d'années on mesure la durée de l'univers tel que nous le connaissons. Mais c'est pour dire à quel point, quand Dieu crée, il accompagne sa création. Chaque semence qui donne d'autres semences est une action, je crois, une action de Dieu. En tout cas, on peut le reconnaître. Et au terme des 7 jours, il est dit que Dieu s'arrête, qu'il regarde tout ce qu'il avait fait, et là il dit « cela est très bon ». Donc il y a encore un seuil dans la qualité, quand les choses sont achevées. Et apparemment, avec la création de l'homme et de la femme, les choses sont achevées, et Dieu se repose. Si Dieu se repose, c'est aussi que Dieu a travaillé. J'ai mis sur vos feuilles la petite phrase de saint Ignace de Loyola. « Dieu se comporte comme quelqu'un qui travaille ». Alors, qu'est-ce que c'est travailler à partir de la création? Eh bien, c'est faire être des biens qui n'étaient pas là. Le travail est créateur, le nôtre aussi. Et cela ne s'est pas fait sans parole. Je reviendrai tout à l'heure sur les paroles de Dieu. Mais il y a notamment une parole par laquelle Dieu se parle à lui-même quand il dit « Faisons l'homme à notre image ». Comme notre ressemblance. Donc Dieu connaît aussi ce que nous avons, la délibération, la mise en projet avant une réalisation. En tout cas, quand Dieu travaille, il partage toujours quelque chose. Il partage l'existence, il partage la vie, il partage la bonté. Et c'est assez rassurant de voir que ce que les parents font, eh bien, c'est la même chose que Dieu. En même temps, dans la création, telle qu'elle nous est décrite là, dans ces deux premiers chapitres, on ne peut pas dire que Dieu s'impose lourdement. Il est dit de Dieu plein de choses. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu les bénit et leur dit. Mais quand il a fait ça, Dieu, c'est comme s'il se cachait. Ce qu'il reste, c'est la terre, ce sont les arbres qui poussent, ce sont les hommes et les femmes et les animaux qui sont là. Et donc, Dieu, si on peut dire, enfin c'est Ignace qui reprend ça à Père de l'Église, Dieu descend, Dieu entre dans sa création, enfin il l'a fait être, et il ne ramène pas les choses à soi. Dieu n'a rien exigé dans les deux premiers chapitres. Il n'a rien exigé pour lui-même. C'est le don est un don sans que ce soit pour ramener les choses à soi. Alors c'est important de le dire et de le redire, parce que souvent les hommes interprètent, on le verra encore mieux la semaine prochaine après le péché, mais interprètent Dieu comme quelqu'un qui a besoin de tel ou tel bien de l'homme, quoi, comme s'il venait le réclamer. Eh bien, en tout cas, au moment de la création, là au départ, quand tout est calme et paisible, Dieu n'a rien exigé. Il n'y a pas de volonté de puissance chez Dieu. C'est une puissance de don. Et pourtant, Dieu qui se cache derrière ses dons, eh bien, il donne d'exister, il donne de croître, il donne de sentir. C'est à méditer aussi pour comment, avec la vie animale, vient la sensation, et que c'est une participation et une capacité de Dieu, ça. Dieu est sensible. Dieu donne la capacité de changer, de se mouvoir, d'agir. Pour moi, ça a été une révélation un jour de voir que la mobilité, on a fait une semaine de la mobilité ici, c'est une pâle imitation de ce qu'est la mobilité comme attribut de Dieu. Parce que les gens associent souvent l'éternité au cimetière. Et donc l'éternité, il n'y a rien qui bouge. Mais c'est tout le contraire qu'on voit ici. Là où il y a Dieu, il y a de la vie, ça se multiplie, ça change tout le temps. Donc la mobilité, c'est un attribut de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu est hyperkinétique, mais ça veut dire que Dieu a la capacité d'aller vers, de déplacer les frontières, de faire du neuf. L'amour ne s'ennuie pas dans la répétition du même. C'est pour ça que je vous ai mis le petit texte de Chesterton sur votre feuille, là. Peut-être Dieu est-il assez fort pour exulter dans la monotonie, on devrait mettre des guillemets. Il est possible que chaque matin, Dieu dise au soleil, fais-le encore. Et à chaque soir, à la lune, fais-le encore. Il se peut que ce ne soit pas la nécessité automatique qui fasse semblable toutes les pâquerettes. Il se peut que Dieu façonne chaque pâquerette séparément et qu'il ne soit jamais lassé de les façonner. J'en reste là dans la citation, mais je trouve que nous risquons de dire, voilà, les choses se ressemblent, les roses sont toutes les mêmes, comme chez le petit prince, là, parce que Dieu produirait en série, comme nous faisons des choses en série de la façon industrielle. Non, le livre de la sagesse le dira encore plus clairement, Dieu ne fait que des choses qu'il aime. Il aime ce qu'il fait. Et il n'y a pas de créature qu'il puisse faire par dégoût, par monotonie, par habitude. Donc Dieu a donné d'exister, de croître, de sentir, de se mouvoir. Il a donné aussi de voir les choses avec intelligence. L'homme qui a écrit ce récit en sept étapes est un homme intelligent, quelqu'un de notre race. Donc Dieu donne de comprendre. Comprendre, c'est grâce à la mémoire. Si nous n'avions pas la mémoire, la mobilité, le mouvement, le changement ne serait qu'éclatement. On n'aurait jamais un film, on n'aurait que des diapositives qui se suivent l'une l'autre. Pas de lien. Mais comment est-ce que vous savez que ceci est un mouvement? Parce que quand ma main est ici, vous vous rappelez qu'elle était là. La mémoire. Dieu partage la mémoire à ses créatures. Et alors en plus, Dieu donne de vouloir. Donc c'est parce que nous pouvons vouloir que nous pouvons aimer, essentiellement vouloir, aimer plutôt, c'est vouloir que l'autre soit. Trouver quelque chose de bien en dehors de soi, se porter vers lui et le vouloir. Voilà, tout cela est très bon. Et tout ce que Dieu a fait au début, qui est annoncé ici, tout ça est encore là aujourd'hui. Tous les préparatifs de l'amour sont encore là, aujourd'hui. Nous ne le voyons plus, nous sommes trop occupés avec nos écrans d'ordinateur, tout ça, mais c'est là. C'est là. Alors, il y a un verset, cependant, qui annonce du suspense. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. À son image, à l'image de Dieu, à sa ressemblance. L'homme et la femme, avec leur intelligence, leur mémoire, leur volonté, sont-ils assez à la ressemblance de Dieu? S'ils ne se sont pas reconnus, admirés et voulus mutuellement. Eh bien, le premier récit, là, il serait vraiment trop court si le deuxième récit, qui avait été écrit avant, n'était pas là. C'est vraiment le deuxième récit qui donne davantage le sens, on pourrait dire, poétique, quoi. Il ne suffit pas de savoir, d'ordonner les choses, d'avoir 7 jours, d'avoir des gradations dans les vivants. S'il n'y a pas la reconnaissance mutuelle de la bonté de l'autre et l'expression, hein, cette fois-ci c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, s'il n'y a pas une admiration, eh bien tous les préparatifs seraient comme vains. Alors, au début aussi, on voit que Dieu crée en séparant. Il sépare la lumière et les ténèbres, il sépare les eaux d'au-dessus des eaux d'en dessous, il sépare la terre et les océans. Et donc, séparer, c'est l'initiative de faire être. Et faire être, c'est faire une différence avec ce qui n'est pas. Ça a l'air banal, mais c'est ce qui explique que au début, là, il y a des ténèbres. Quand Dieu n'a encore rien créé, il y a déjà quelque chose. Non, c'est quand la lumière est créée, on sait quel est le contraire de ténèbres. Donc ce qui n'est pas, mais qui est pensable, disons, les ténèbres sont pensables. En même temps, Dieu sépare, c'est-à-dire qu'il met de l'ordre, il ne laisse pas les choses dans un fouillis, et il nous partage cette capacité de discerner. La fécondité de Dieu est prolifique, mais elle n'est pas un fouillis ou un désordre. Alors, Dieu crée la vie, et, tenez-vous bien, il n'a pas à la séparer de la mort. Il n'y a rien de mortel dans ce que Dieu a créé. Chapitre 1 et 2, il n'y a rien de mortel. Le livre de la sagesse le dira plus tard. Donc, Sagesse 1, versets 13-14. Car Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants, il a tout créé pour être. Les générations dans le monde sont salutaires, en elles il n'est aucun poison destructeur, et l'enfer ou l'Hadès ne règne pas sur la terre. L'auteur de la sagesse a écrit ça plus tard que ce récit, mais quand le récit a été écrit, il savait bien ce qu'il en était. Pourquoi est-ce qu'il est affirmé qu'il n'y a rien de mortel dans la création? Alors voilà, donc ma lecture était, comme vous l'avez vu, elle s'éloignait du texte pour intégrer d'autres choses et souligner l'émerveillement. Dieu vit que cela était bon. Moi, je vous ai communiqué l'émerveillement d'une autre manière, mais je crois être fidèle au texte. Mais maintenant, venons-en aux leçons pour la théologie morale. Donc, j'ai mis comme premier titre « La bonté des créatures précède la question du bien à faire ». Ça peut sembler banal, si vous voulez, de dire qu'il y a une bonté qui précède celle que l'homme fait. Mais je constate que nous sommes dans une civilisation pour qui ce n'est pas si banal que ça. Nous sommes empreints d'une mentalité qui vient surtout de l'ère industrielle, puis du matérialisme des 50 dernières années, qui fait que ce qui est à la surface de la Terre apparaissait bon, jusqu'à 30-40 ans, quand l'écologie a commencé à se développer, mais comme tout est des moyens pour l'homme pour les transformer. Donc la terre est une réserve de matières premières. Elle n'est pas le lieu de cet émerveillement devant le don de la vie, de l'être, de la mobilité. Tout est transformable par l'homme et ça devient bon, hein, si l'homme transforme la viande en saucisson, s'il transforme la pomme de terre en frites, etc. Et donc on a l'impression que la bonté ne vient qu'avec l'homme. Et c'est assez décourageant, bien sûr, si la bonté ne commence qu'avec l'homme. Ce que la Bible nous rappelle simplement, c'est que la bonté précède le bien moral. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonté avant même que je n'aie produit un seul acte de bonté moi-même. Et donc la bonté, elle est comme dans cet élan de la création. L'homme est capable de faire le bien parce qu'il est bon, comme les autres choses ont été créées bonnes. Ça nous rappelle que, bien sûr, la vie éthique et la vie morale, aujourd'hui, donc nous sommes après le péché, nous demandent un effort et parfois des gros efforts. Mais nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour faire le bien. Ça devrait être plus facile de faire le bien que de faire le mal. Et il est bon de se le rappeler parfois pour ne pas se désespérer en pensant que le mal ne va que commencer que si on arrive à convertir les gens à faire le bien, etc. Non, le bien, j'ai dû me tromper là dans ma phrase, mais c'est le bien, n'est-ce pas? Qui ne va commencer que. Qui a déjà commencé, en fait. Alors, la création est présentée par le récit biblique comme une alliance. Donc, je vais maintenant venir aux paroles de Dieu. Donc, il y a d'abord eu des paroles. Donc, Dieu dit que la lumière soit. Première parole de Dieu, c'est une parole qui fait exister. Je ne sais pas à qui elle est dite, peut-être à la lumière, hein, puisque la lumière doit être, mais la lumière naît de la parole qui lui est dite. Donc Dieu est capable là de quelque chose dont nous sommes capables dans ce qu'on appelle nos actes performatifs. Donc, dans le langage, un acte performatif, c'est un acte qui accomplit ce qu'il dit. Si je vous dis, je promets d'être là la semaine prochaine, le fait de dire je promets est la promesse. Il n'y a pas un autre acte. Tandis que si je vous dis je mange une pomme, il faut que je m'arrête de parler pour manger la pomme. Tandis que quand je dis je promets, quand je dis je m'engage, quand je dis je t'aime, pourvu que ce soit vrai, ce sont des actes performatifs. Donc Dieu fait des actes performatifs. Sa façon de parler, c'est d'abord de faire exister. Et puis la deuxième parole que Dieu dit, c'est quand il a créé les êtres vivants. Donc, il y a la parole à lui-même, donc faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, donc la délibération. Et puis après, la première parole qui est dite après la création de l'homme, donc la première parole qu'on pourrait dire adressée à l'homme, c'est Dieu les bénit et leur dit, c'est une bénédiction, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Je vous donne toutes les herbes. Donc le premier impératif biblique adressé à l'homme, c'est soyez fécond, soyez vivant, soyez, oui, prolifique. Donc c'est important de voir que le tout premier commandement dans la Bible va dans le sens de la vie tout simplement. C'est pas Dieu qui exige quelque chose, hein. Il donne une capacité plutôt qu'il l'exige là. Mais bien sûr, il y a un moment où il y a un verset étrange dans le chapitre 2. C'est lorsque Dieu a créé, donc au verset 9, Dieu fait pousser toute espèce d'arbre séduisant à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres spéciaux là, l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis quelques versets plus loin, Dieu dit. Il est mis alors, Dieu fit à l'homme ce commandement. Donc c'est la première fois que le mot commandement apparaît dans toute la Bible. Quel est le premier commandement? Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Donc le premier commandement est un commandement positif. Le tu peux est une interprétation. En hébreu, c'est de tous les arbres du jardin, pour manger, tu mangeras. C'est la façon hébraïque d'insister. pour pleuvoir, il pleut. Ça veut dire qu'il pleut fort. Bon. Pour manger, tu mangeras. Ça veut dire, vas-y, quoi, mange. Mais donc, c'est une possibilité, effectivement, d'où la traduction n'est pas mauvaise, de dire, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais voilà, verset 17, « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, il faudra revenir à ce commandement, plus spécialement donc la semaine prochaine, puisque c'est autour de lui que va se décider le basculement de l'humanité dans tous les malheurs que nous connaissons. Mais quand nous lisons le commandement, nous le lisons dans un univers d'innocence. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de mal. Et Dieu anticipe déjà que la mort est possible. Et pour prévenir la mort, il dit, mais ne mange pas de cet arbre-là, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, c'est pas plus égoïste, ramenant à soi, colérique ou quoi que ce soit, que quand on dit à un enfant, ne traverse pas sans avoir vérifié qu'il n'y a pas de voiture, quoi. Si tu traverses sans vérifier, tu mourras. Bon. Donc, mise en garde de l'homme, là. Mais il n'y a pas de mort dans la création. Et Dieu dit, si tu fais cela, tu mourras. C'est un appel à la foi de l'homme. Pour que l'homme obéisse, il faut qu'il croie la parole qui lui est dite. Vous vous rendez bien compte de ça? L'homme n'a pas fait l'expérience de la mort. Il ne sait pas ce qu'est la mort. Dieu lui dit, la mort est possible, mais évite-la. Mais ça veut dire que quand Dieu donne ce commandement, il demande à l'homme de lui faire confiance. Et c'est pour ça que le père Jean-Marie Hénaud dit que la parole adressée à l'homme, elle crée une alliance, parce que si l'homme le fait, il donne sa foi au Seigneur. Il accepte un autre, c'est mieux que moi, ce qui me conduit à la mort ou ce qui ne m'y conduit pas. Donc, ce petit commandement qui est un peu étrange parce qu'il y a de la négativité dedans, donc tu ne mangeras pas et puis si tu en manges, tu mourras, est en fait déjà l'appel de Dieu à l'homme pour qu'il lui fasse confiance, pour qu'il vive la création, non pas simplement comme on met un enfant dans un grand magasin de jouets, quoi, mais pour qu'il y ait une relation à vivre avec toute cette création. Donc j'ai dit, Dieu se cache derrière sa création, il ne veut pas s'imposer. En même temps, il veut créer la relation. Donc il a créé tous les préparatifs, tous les moyens, et puis c'est par la parole qu'il invite à une relation. Alors, recevoir la création implique donc une foi ou une confiance en la parole de Dieu. Donc, il y a un non-savoir qui va permettre la relation. Si l'homme savait ce qu'est la mort, il ne devrait pas faire confiance. Il ne sait pas, il doit faire confiance. Et c'est tout ce qui se passe quand une relation se nie, que ce soit entre deux amis ou entre un homme et une femme. Ce n'est pas possible de vouloir une amitié ou un amour dont je sais que l'autre va correspondre à tous mes désirs à moi. Sinon, je suis le maître et l'autre est l'esclave. Il est nécessaire que je ne sache pas comment l'autre va répondre pour que la relation puisse être une relation d'amitié. Donc, il y a une ignorance qui est bonne pour l'homme. Nous croyons, c'est notre société comme ça qui veut tout contrôler, que plus on aura de savoir et mieux ça ira sur la terre. Et il y a quelque chose de vrai. L'homme a le droit de... et doit chercher les causes des maladies et comment améliorer la vie en société et comment améliorer les écoles, tout ça. Ça passe par un savoir. Mais s'il croit que c'est toujours par l'accumulation de savoir qu'il va arriver au bonheur, ça ne marchera pas. Il faut faire confiance à un moment, même si ce n'est pas à Dieu, il faut faire confiance à un autre. Il n'y a pas moyen d'être heureux en se donnant le bonheur à soi-même. C'est une illusion, ça. On se gave alors, mais on ne peut pas être heureux. Alors, ce qui est demandé à l'homme, au fond, à travers ce petit ce petit verset de faire confiance au Créateur, c'est de consentir à être créé. C'est un philosophe, donc mon nom m'échappe au moment où je cherche. Ça va me revenir parce que je vais vous lire un texte de lui. Peut-être pas trop facile, mais enfin. Oui, c'est Maurice Blondel qui, comme philosophe, parle et avait constaté ceci. Donc, c'est le moment où l'homme réfléchit sur lui-même et se rend compte qu'il est capable de vouloir, mais il n'est pas seulement capable de vouloir l'homme, il doit vouloir. Nous ne pouvons pas ne pas vouloir. Donc il y a quelque chose qui s'impose à moi au moment où je veux vouloir, et vouloir c'est être libre. Alors il dit ceci, dans toute conscience humaine surgit forcément le sentiment que la volonté n'est pas son principe. Si je suis capable de vouloir, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, c'est parce que quelqu'un m'a voulu voulant, voilà. M'a voulu libre. Hein? Bon. Donc la volonté n'est ni son principe, ni sa règle, ni sa propre fin. Et il y a bien des voies qui mènent l'homme à s'en apercevoir, ne fût-ce que cette impuissance où il est de se suffire à lui-même et de se dérober à la nécessité de vouloir. Impossible de se dérober à la nécessité de vouloir. Il nous avait semblé qu'on ne peut être malgré soi, et voici pourtant que l'homme sent jusqu'à l'angoisse qu'il n'est pas son auteur ni son maître. Le tout n'est pas, pour lui n'est pas d'accepter la belle ordonnance de l'univers, ni de ratifier le déterminisme de ses propres actions. Il faut encore qu'il s'accepte lui-même. Il faut qu'il veuille non plus ce qu'il veut, nous voulons tous ce que nous voulons venir ici, nous voulons manger, nous voulons dormir. Il faut qu'il veuille non plus ce qu'il veut, non plus la vie et l'emploi qu'il en fait, mais ce qui en lui la produit. La critique et la juge. Puisque notre vouloir est, nous savons, il est jugé par le bien. Serait-il donc possible d'expliquer et de justifier cette apparente tyrannie, puisqu'on voudrait se vouloir soi-même et on ne s'est pas voulu soi-même. On me l'a imposé d'exister. Et ça peut être une révolte terrible. On m'a imposé d'exister. Serait-il donc possible d'expliquer et de justifier cette apparente tyrannie, de résoudre le conflit et d'offrir à la volonté une alternative nécessaire, mais telle que, de quelque côté que s'arrête l'option, jamais plus il n'y en ait désavé. Donc, qu'est-ce que je peux vouloir qui me réconcilie pleinement avec moi-même? C'est ça la question. Partager entre ce que je fais sans le vouloir et ce que je veux sans le faire, je suis toujours comme exclu de moi-même. Comment donc y rentrer et mettre dans mon action ce qui s'y trouve déjà sans doute, mais à mon insu et hors de mes prises? Comment égaler le sujet au sujet même? Pour me vouloir moi-même pleinement, il faut que je veuille plus que je n'ai su trouver encore. En me heurtant à la suprême nécessité de la volonté, j'ai donc à déterminer ce que je veux, afin que je puisse en toute plénitude vouloir, vouloir. Me vouloir comme liberté, donner. Oui, il faut que je me veuille moi-même. Or, il m'est impossible de m'atteindre directement. De moi à moi, il y a un abîme que rien n'a pu combler. Point d'échappatoire pour me dérober. Point de passage pour avancer seul. De cette crise, que va-t-il sortir? Voilà, la question telle qu'elle est posée, bon, un peu en termes de philosophe, mais pour dire que finalement, l'homme ne se connaît et ne s'accepte pleinement lui-même que s'il s'accepte créé. Donc s'il accepte un créateur. Alors, le problème dans nos sociétés, c'est que l'athéisme a fait son chemin, on a l'impression que l'homme peut facilement se débarrasser dans le discours comme ça, qu'il y a un créateur, qu'il n'y en ait pas. En plus, le Dieu qu'on rejette, c'est pas spécialement le créateur, c'est le Dieu que la morale chrétienne a imposé comme le juge qui impose des obligations. Donc, tout ça est mêlé. Mais il faut quand même se demander un jour, est-ce que pour me vouloir moi-même, je dois me vouloir créer, et donc je dois vouloir plus que moi. Je dois vouloir la liberté qui m'a créé, qui m'a voulu. Et je ne serai en paix avec moi-même que quand j'aurai accepté ça. Alors, je vous dis ces propos comme ça, comme si je vous demandais d'accepter Dieu. Hein. Mais la réalité, c'est qu'on a d'abord vu que tout ce qu'il a fait est bon. Le Dieu qui nous demande de l'accepter comme créateur, c'est le Dieu qui n'a pas fait la mort, qui n'a fait que la vie, qui n'a fait que se partager lui-même. C'est lui qui nous demande de l'accepter comme notre créateur, de lui faire confiance. Alors, c'est une étape toujours à reprendre dans nos vies, de se vouloir, non pas à partir de soi, mais à partir de Dieu. Moi, je crois, comme le père Xavier Léon Dufour, donc un exégète, le disait, quand Jésus dit que l'homme se renie lui-même pour me suivre, qu'est-ce que c'est se renier soi-même ? C'est renoncer à vouloir être la source de sa propre vie. Accepter ? Non, ma vie m'est donnée par un autre à qui je peux faire confiance. Ça m'est proposé comme ça. Et bon, la Genèse ne dit pas ça dans les termes philosophiques élaborés que je vous dis, elle le dit simplement, il y a un commandement où Dieu demande qu'on lui fasse confiance. Faire confiance, c'est croire que celui qui m'adresse le commandement veut ma vie. Voilà. Mais, on verra ça la semaine prochaine, le drame pour Adam, c'est que il n'y avait rien qui le poussait à se méfier de Dieu. Pour Augustin, la gravité du péché originel, du premier péché, c'est que rien ne l'y poussait. Tandis que nous, c'est comme une excuse, le péché originel. Le mal est déjà là. Hein? La question revient toujours. Si Dieu a créé le monde bon, pourquoi est-ce qu'il y a des enfants qui souffrent? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres, etc. Donc ça, c'est les deux chapitres suivants vont essayer de donner des pistes pour rendre compte de cette présence du mal. Mais nous naissons dans un monde où le mal est là en même temps que le bien, et où la mort est là en même temps que la vie. Et donc faire confiance à Dieu demande un saut supplémentaire. Nous étions faits pour croire à la bonté de Dieu, pour adhérer à notre Créateur, hein, sans difficulté, et maintenant c'est une difficulté d'y adhérer. Mais c'est quand même le pas que je propose en théologie morale. La première chose à vouloir, c'est pas de vouloir le bien moral, c'est de se vouloir soi-même comme créé. Et pour vous dire, bon, chez les saints, ça va jusqu'à ce qu'on a appelé les actes d'abandon. Hier, on fêtait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vous connaissez son acte d'abandon. Charles de Foucault aussi, mon père, je m'abandonne à toi. Et on sent bien que dans cet acte-là, qui est une prière, il y a un engagement, je te fais confiance, quoi qu'il arrive, quoi. Bon. Mais ça, c'est ça qui doit être une lumière, hein, ça commence par la lumière, une lumière pour nos vies, c'est que cet acte de confiance en Dieu, il est possible, puisqu'il y a des saints qui nous ont écrit des prières pour nous aider à nous y engager, mais il est aussi ce qui va nous libérer. Parce que tant qu'on est en révolte contre le fait qu'on existe, comment est-ce qu'on va vouloir que les autres existent et leur vouloir du bien? Donc, l'origine, la source de ce que l'amour peut couler de nous vers les autres, c'est que nous-mêmes nous soyons en paix avec nous-mêmes. Et c'est pourquoi pour prendre une bonne décision, il suffit pas d'avoir tous les bons arguments pour, les arguments contre et de les peser. Il faut d'abord se vouloir soi-même, trouver la paix avec soi-même. Voilà, donc, après le péché, nous en sommes incapables, donc ne vous effrayez pas de ce que je vous dis. C'est une grâce à demander, mais je vous invite à la demander. Dites au Seigneur, fais-moi comprendre à quel point tu sais mieux que moi le secret de ma vie. Fais-moi comprendre comment tu as conduit ma vie. Fais-moi comprendre vers où tu me diriges. Que je puisse te faire confiance. Alors s'il y en a parmi vous qui sont plus loin, avant de pouvoir dire cette prière-là, faites la prière de Charles de Foucault. Mon Dieu, si vous existez, faites-le-moi connaître. c'est une prière à donner, vous savez, à ceux qui cherchent, qui ne trouvent pas le bonheur. Parfois, on en a besoin nous-mêmes, donc c'est pour ça que je vous la confie. Voilà, donc, alors maintenant, il y a Eric qui voulait faire une petite annonce.
Voilà, tout simplement, en fait, comme le professeur nous y invite à travailler les textes pour venir à la séance et ensuite avoir le cours, eh bien, je propose que, pour ceux qui le désireraient, à 20h avant, eh bien, nous soyons un petit groupe pour lire la parole ensemble. C'est une manière de préparer le cours. Et donc, on se retrouverait à la chapelle, voilà, à 20h avant chaque séance. Et puis, vous pouvez venir avec votre Bible ou alors sans rien. En tout cas, la parole est lue.
Voilà, j'appuie l'initiative d'Éric parce que écouter la parole lue, ce n'est pas la même chose que simplement la lire silencieusement pour soi-même. En plus, il y a un intérêt, si vous avez votre Bible et qu'on lit une autre traduction, il y a des décalages qui sont inspirateurs aussi. Voilà, donc nous faisons 5 minutes de pause pour que tous ceux qui désirent se retirer puissent se retirer. Et puis je répondrai aux questions de ceux qui voudraient jusqu'à 10 heures au plus tard.